Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview,
agenda,
musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Nous allons passer à notre sujet suivant avec notre invité Jean Viviès. Bonjour Jean.
Oui, bonsoir.
Vous êtes organisateur de la manifestation, un des organisateurs depuis même plusieurs années de la fête des vieux métiers appelée Péguillant 1930 qui a lieu tous les ans début septembre. Ça fait combien d'années là que vous y êtes?
Ça fait une quinzaine d'années. Je vais pas dire à une année près, mais ça fait une quinzaine d'années. Donc, au cours de notre fête qui se déroule toujours le premier dimanche de septembre, nous faisons revivre en fait certains des métiers qui étaient donc en vogue ou en cours avant la Seconde Guerre mondiale. Disons que notre fête relate la vie à la campagne essentiellement, puisque de toute façon nous sommes à la campagne. Donc dans l'époque charnière qui se situe entre les années 30 et les années 40 et qui en fait ont représenté un changement fondamental dans la façon de travailler, la Seconde Guerre mondiale ayant amené pas mal de changements au niveau donc industriel ou agricole même. Donc nous essayons donc de faire voir, surtout aux générations qui n'ont pas connu ça, donc d'ailleurs j'en fais partie moi aussi. Donc nous essayons de montrer certaines pratiques, certains métiers donc, qui étaient donc, indispensables à la vie de cette époque-là.
C'est intéressant parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens, enfin moi je parle au niveau agricole parce que j'ai un pied dedans, qui veulent revenir à des situations comme ça, de retravailler sans grosse mécanisation, sans électricité, sans vapeur, sans gasoil, tout ça, donc ça doit quand même attirer du monde, là, je suppose.
Oui, alors nous avons, alors cette... Alors, il faut dire une chose importante, c'est que notre fête est gratuite. Et ça, de nos jours, les choses gratuites ne sont pas toujours...
Se font rares.
Se font rares. Voilà, pourquoi nous avons... Parce qu'on nous a souvent fait la remarque comme quoi, bon, on devrait tout au moins demander un minimum. On nous avait même énoncé la somme de 1 euro. Bon, c'est un peu symbolique, hein. Donc, on préfère faire gratuit parce qu'en fait, ça, on reste comme ça dans l'esprit même de la boîte, de la fête, qui en fait, surtout, a pour mission de faire revivre les vieux métiers. Alors, avec l'esprit un peu d'époque, on essaye au travers de nos démonstrations.
Oui, parce que la mentalité paysanne, c'est le partage avant tout, c'est pas je te monnaie pour avoir un service, quoi.
Oui, je disais que c'était surtout à l'époque, oui. Bon, ça a peut-être un peu changé maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que, bon, de toute façon, les conditions faisaient que l'entraide était indispensable, en ce sens que, bon, déjà pour un battage, par exemple, battage que nous présenterons également, avec une machine à vapeur, une machine locomobile. Ces machines-là étaient à l'époque très utilisées, parce qu'elles ne nécessitaient que du bois, voire du charbon et de l'eau. Parce qu'encore, il faut savoir que dans notre village, l'énergie électrique n'a été amenée qu'en 1938.
D'accord.
Voilà. Donc avant, les battages se faisaient avec des machines à vapeur ou, dans certains cas, des tracteurs à essence. Des tracteurs, bien sûr, qui souvent étaient eux-mêmes déjà datés des années 20, quoi. C'est parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand même que le matériel, à l'époque, coûtait cher quand même. Le matériel coûtait cher et même une lieuse, à l'époque, était un objet de luxe, si on peut dire, entre guillemets, parce que tout le monde ne pouvait pas se payer une lieuse. Il faut essayer de se remettre dans le contexte. Tout le monde ne pouvait pas avoir non plus un attelage de bœuf, parce qu'un bœuf, ça, il faut l'entretenir, ça mange, il faut de la surface. Donc voilà, c'est difficile d'imaginer de nos jours les contraintes auxquelles étaient soumises les gens. Hein. C'est, ça nous échappe un peu à nos générations, parce que bon, ben, on n'est plus dans le contexte, quoi. Voilà.
Et puis on a. Et du coup, toutes ces techniques et ces savoirs, ces gestes sur les métiers anciens, vous les avez retrouvés comment ? Par collectage ?
Alors, oui.
Par des écrits qui étaient restés peut-être dans des familles ou des choses qui se sont transmises de génération en génération ?
Alors, certaines, bon, ben déjà, essentiellement, nous les qui participons à l'organisation et au développement donc, de la fête de Béguillon, nous avons déjà, au travers de nos familles, parce que bon, étant du village, on nous a raconté beaucoup de choses. Et on essaye d'ailleurs, dans ce sens, de puiser un maximum de renseignements de la part de nos aînés, parce que malheureusement, les années passent et les savoirs nous quittent. Et donc, ça implique qu'il faut essayer de récupérer un maximum d'informations auprès des gens qui... Et ce n'est pas toujours facile, il faut attendre qu'ils soient disposés. Parce que des fois, sans rien demander, on peut avoir des tas d'infos. Et puis, si précisément on demande, ça risque de les mettre dans une position des voix qui les gêne et ça ne sort pas. Mmh. Donc, c'est au cours des années que l'on récupère des informations.
Petit à petit.
Voilà.
Et vous cherchez ça un peu partout autour du village, dans d'autres villages ou uniquement chez vous ?
Essentiellement chez nous, oui. Essentiellement chez nous et puis au travers de ce que les gens qui participent à notre fête nous amènent aussi.
Bien, voilà. Ouais.
Et il faut savoir aussi que, bon, bien sûr, vu qu'il y a quand même une certaine diversité dans les métiers que nous présentons, bien souvent, en allant voir les gens, la conversation s'engage et puis on nous donne des compléments d'informations qu'on aurait pu ignorer. Voilà. Après, bien sûr, on peut également récupérer des informations sur le moyen facile qui s'appelle Internet et au travers duquel on peut arriver à récupérer donc certaines façons de faire ou bien pratiques d'autres régions et faire un comparatif donc avec ce qui se passe chez nous.
C'est pas forcément les gens qui ont utilisé vraiment ces savoirs. Je pense aux gens qui ont un certain âge, ne sont pas forcément branchés sur Internet à diffuser les infos. Il y a un certain nombre de métiers oubliés. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé. C'était genre comment faire les cordes, des choses comme ça. Choses qu'on n'avait même pas à se poser la question qu'à un moment, il fallait faire des cordes. Et c'est toute une machinerie de faire le tressage, quoi. Ou de s'imaginer d'autres installations agricoles comme les botteuses fixes, là, ou...
Mais ça donne quand même accès à des archives qu'on n'aurait pas localement.
C'est des archives vivantes, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir retrouver un savoir qui c'est un peu, ça peut passer un peu pour du folklore, comme quelque chose d'oublié qui est plus vivant, mais aussi comme une préservation d'un savoir-faire qui sinon serait perdu, quoi.
Oui, effectivement, ça peut passer pour du folklore, évidemment, vu donc par rapport au décalage qui existe entre ces pratiques et celles que nous connaissons actuellement. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut quand même se remettre un peu, essayer tout au moins, de se remettre dans le contexte de l'époque où la vie n'était pas facile et ces pratiques qui paraissent un peu désuètes et simplistes, en fait, c'était un élément majeur de la vie de l'époque. Le cheval, par exemple, les chevaux actuellement, bon, ben, ce sont des bêtes qui servent surtout à se promener. Mais à l'époque, c'était l'animal qui rendait service, qui travaillait, qui labourait. Moins dans nos régions que dans les régions du centre ou du nord, mais c'était des éléments essentiels de la vie. Alors que maintenant, bon, c'est plutôt des éléments de loisirs. Après, bon, il y a l'eau, parce que effectivement, l'eau. Venons-en à l'eau, puisque c'est le thème de notre fête de cette année. Alors, l'eau, en fait, on la retrouve comme forme d'énergie gratuite. Parce que, bon, je dis gratuite parce qu'à l'époque, l'adduction d'eau n'existe pas dans notre village. L'adduction d'eau est arrivée dans les années 60. Je pense que c'était en 61. Il me semble que c'était en 61.
On le voit sur les photos aériennes par chez moi. Oui, c'était 61-62. On voit les tranchées sur les photos de l'IGN. C'est assez marrant, quoi. Sur le site Géoportail, on voit dans les photos des années des missions 61 ou 62, on voit les tranchées fraîches des conduites d'eau en photo aérienne. Quoi.
De quelle région là vous
Moi je suis du côté d'Aurignac. Ouais.
Ah oui,
Saint-André.
Oui, oui, alors bon, c'est ça alors. Voilà. Donc l'eau était indispensable. D'abord, il fallait boire. Parce qu'on buvait quand même de l'eau à l'époque. On buvait du vin, mais on buvait de l'eau aussi. Et bien souvent, eh ben, arrivait l'heure du repas, et puis il n'y avait plus d'eau. Ah ben alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, il fallait, je l'ai connu, moi, hein, je l'ai connu. Il fallait aller à la fontaine chercher l'eau. Alors, ceux qui avaient la chance d'avoir un puits, de se trouver sur une nappe phréatique conforme, pouvaient récupérer l'eau, et c'était un avantage majeur. Parce que là encore, c'est pareil, ça avait un coût, il fallait le creuser, le puits.
Tout à fait.
Ça aussi, ça avait un coût. Oui, parce qu'on s'imagine mal, en fait, toutes les contraintes que les gens devaient surmonter. Hein. Voilà, donc, par rapport à l'eau toujours, l'eau servait à laver, à faire la lessive. Alors, il n'y avait pas un cours d'eau partout. Donc, bien souvent, les gens attelaient ce qu'on appelle la barrique. C'était une barrique semblable à celle dans laquelle on met le vin, qui était donc installée sur un train de tombereau. Et avec la paire de vaches, ils allaient chercher l'eau et les femmes lavaient avec la banque derrière la barrique. Et alors, il y avait le cas aussi, bon, il y avait, ça c'était de l'eau froide, mais il fallait la faire chauffer. Donc après, c'était la lessiveuse. Et à la banque, il fallait taper. Il fallait taper le linge. Et alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas tellement vu, sauf dans des démonstrations comme ça, mais c'était quand même, au dire de ceux qui l'ont fait, bon, ils n'aimeraient pas quand même trop revenir en arrière par rapport à la machine à laver. Voilà.
Surtout que les vêtements aujourd'hui, si on les tape, ils ne résistent pas aussi. Il y a la conception du vêtement lui-même qui est plus faite pour être battu aussi.
C'est exact. Et il y a aussi les vêtements qui, à l'époque, étaient quand même relativement lourds et résistaient effectivement à ce genre de traitement. Et puis, bon, parce que les matières synthétiques, bon, n'existaient pas. Tout était à base de coton essentiellement et de laine. Voilà. Donc, alors, l'eau, nous disions, dans le lavage, donc, pour boire, indispensable. Et ensuite, faire boire les animaux, élément majeur. Parce que les animaux étant la source première de la vie à la campagne, tant pour l'attraction animale, pour le travail, que ensuite pour élever le veau et ensuite, bon, éventuellement manger la viande. Donc l'animal était lui-même un élément de vie essentiel. Donc, et ça boit, une vache l'été, ça boit. Donc, comme les points d'eau n'étaient pas... Alors la conformité des champs faisait que certains avaient des points d'eau, d'autres pas. Alors, tant que les années n'étaient pas, disons, en sécheresse vraiment très marquée, on pouvait encore aller en certains ruisselets ou bien dans certains points d'eau qui subsistaient après quelques orages pour faire boire. Mais lorsque la sécheresse sévissait et que seuls peut-être deux ou trois points d'eau dans la commune restaient, là, ça, on en arrivait à des conditions d'existence très difficiles. Très difficile de par le fait que l'animal avait soif, de par le fait qu'il venait de loin souvent, il arrivait pour boire, mais lorsqu'il revenait chez lui, il avait de nouveau soif, tellement il venait de loin.
Tout à fait.
Ensuite, se posait le problème du cheminement. Il faut éviter que les troupeaux se croisent, parce que les vaches, lorsqu'elles se rencontrent et qu'elles rencontrent des troupeaux étrangers, ben, elles se rentrent dedans, elles se battent. Conditions donc à éviter. Donc il y avait en fait un certain ordre à respecter au niveau des horaires pour que ne pas se croiser avec les... Et alors, anecdote amusante, ce qui se passait aussi des fois, c'est que bon, comme c'était la sécheresse, l'herbe ne pousse pas. Mais en plus de cela, c'est que bon, certains avaient tendance un peu à laisser traîner au passage leurs animaux au lieu de les pousser. Donc ce qui fait que ben ils mangeaient gratuitement sur le pré de celui qui possédait le point d'eau. Ça aussi, ça menait quelques discussions.
Et comment on arrivait à résoudre ce problème ? Parce que j'imagine qu'en hiver, on avait certainement de l'eau parce qu'il y avait j'ai cru voir des mares près des maisons. On avait l'eau de pluie peut-être, je ne sais pas, qui était utilisée, ou des petites mares. Par contre, l'été, lors de ces sécheresses, quand les animaux étaient dans les tables ou à proximité de la maison, est-ce qu'il y avait quelque chose pour les animaux ?
Voilà, le problème c'est ça, c'est que lorsqu'il y avait grande sécheresse, il arrivait que les mares soient asséchées aussi. Alors bon, il faut qu'il fasse quand même chaud. Mais bon, dans la période d'immédiate après-guerre et pendant la guerre, il y a eu une grande sécheresse et les gens étaient obligés de venir dans les fontaines qui restaient encore exploitables. Voilà. Il faut savoir aussi que par rapport aux pratiques actuelles, les vaches sont tout le temps dehors. Alors qu'à l'époque, elles rentraient très souvent le soir. Voilà. Souvent couvertes de mouches, d'ailleurs, au passage, mais elles rentraient le soir. Donc, elles buvaient en rentrant.
Elles buvaient où ?
Elles buvaient, alors, si le vivier était toujours exploitable, elles buvaient au vivier, sinon, ils les amenaient boire au point d'eau.
Donc, la question s'est posée rapidement de faire bouger l'eau plutôt que bouger les animaux, si c'était si compliqué.
Oui, alors faire bouger l'eau, c'est pas évident parce que le problème c'est que pour une personne, avec 2 litres, on peut faire la journée, ça répond pas tout à fait au nombre actuel, mais bon, on peut faire. Tandis qu'une vache peut boire entre 50 à 80 litres d'eau par jour.
Oui.
Ouais. Et là, ça change complètement, parce que pour transporter l'eau, bien sûr, maintenant, ça se fait, mais avec des cuves qui font 2000, 3000, 4000 ou 5000 litres, mais c'est tiré par des tracteurs, 5000 litres, c'est 5 tonnes. Déjà, pour tracter 5 tonnes avec une paire de vaches, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc, les conditions, on ne peut pas tout à fait le voir de la même façon. Donc, au lieu d'amener l'eau, on amenait les vaches.
Parce que de nos jours, moi, j'ai ces problématiques-là. Et de nos jours, on va chez le premier revendeur, quincailler, etc., pour acheter une pompe électrique. On essaye. Moi, j'ai un petit puits un petit peu plus bas. J'essaye de remonter l'eau. C'est la seule solution que j'ai trouvée. En tout cas, c'est ce que les commerçants m'ont proposé. En tout cas,
Je vous comprends très bien, mais attention, comme je vous disais.
Oui.
L'énergie électrique n'est arrivée qu'en 1938.
Oui.
Voilà. Et pour anecdote, lorsque l'on a commencé à installer l'électricité dans les maisons, déjà, il faut savoir que les gens n'étaient pas des plus fortunés en général, hein, et on installait le minimum, c'est-à-dire on commençait à mettre une lampe à la cuisine quand même pour y voir, la chambre elle s'en passait au besoin, mais on en mettait une à l'étable parce que c'était fondamental, et surtout l'hiver, pour pouvoir soigner les animaux, ça remplaçait bien souvent le petit lampion qui était dans une infrastructure de mur, dans un coin de mur, dans un petit trou, souvent qui éclairait. Donc c'était un avènement très important et utile d'avoir une installation électrique et qui est donc voilà. Ça avait un coût parce que ça s'installait aussi au prix de la lampe. Et bon, je suppose que l'installation du compteur et le raccordement devaient avoir aussi un prix. Donc les gens faisaient au minimum. Oui. Alors bien sûr, il y a toujours eu des différences entre les niveaux de vie des gens, mais en règle générale, quand même, on comptait sévèrement quand même. Hein. Voilà.
Et du coup, au niveau de l'eau, c'est venu aussi progressivement, avec différents systèmes qui sont venus progressivement aussi. Enfin...
Alors voilà, on en arrive à parler de nos machines actuelles. Donc, je dirais que pour les gens qui avaient, parce qu'en fait, la chance d'avoir une source avec un dénivelé, on pouvait exploiter ce qu'on appelle le bélier hydraulique. Qui est une de nos présentations au village. Alors là aussi ça avait un coût, et puis ce n'était peut-être quand même pas très diffusé. Certaines exploitations avaient effectivement un bélier hydraulique. En général c'était souvent les mieux lotis, hein. Voilà. Alors le principe du bélier hydraulique en fait est assez ingénieux, et je dirais qu'on peut être admiratif devant ce que nos aînés, nos lointains aînés, ont inventé et imaginé, étant donné le fait que cette machine a été inventée en 1794 par les frères Montgolfier. Ceux-là même qui ont inventé le ballon à air chaud, avec toutes les possibilités qu'on lui connaît. Hein. Voilà, donc le bel hydraulique, en fait, repose sur le fait que l'on va, dans les grandes lignes, on va exploiter l'énergie accumulée dans une colonne d'eau, parce qu'on travaille en dénivelé. Il faut donc que la source soit au-dessus de la machine, du bélier. Mmh. On va laisser couler l'eau, qui va prendre la vitesse dans un ensemble de tubulures. Et lorsque la vitesse va être suffisante, elle va attirer, de par sa conception de tuyauterie, mmh, une soupape qui va se fermer brutalement. Et cette fermeture brutale, au sein même de la colonne d'eau, qui est absolument, et ça c'est une condition essentielle, enfermée dans une tuyauterie métallique. Il faut que la tuyauterie soit essentiellement rigide pour qu'elle n'absorbe pas la surpression utile, l'énergie mécanique utile. Si on met un tuyau élastique, c'est très mauvais.
Tout à fait.
Donc il faut que la surcompression qui va se produire au moment de la frappe puisse être récupérée de façon utile dans une cuve qui se trouve sur le même circuit et dans le circuit de laquelle on va trouver une soupape d'échappement qui va, disons, laisser passer cette surpression. Ensuite, l'eau qui va sortir de cette soupape va rentrer dans une cuve au sommet de laquelle existe une couche d'air. Et c'est un élément majeur. Si la couche d'air n'existe pas, le système ne peut pas fonctionner. C'est là, en fait, une des astuces majeures des frères Montgolfier. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on enlève la couche d'air, la vitesse atteinte par le fluide au moment de la frappe, pendant les quelques millisecondes de frappe, est telle que les pertes par charge sont tellement importantes que ça absorbe quasiment tout. Mmh. Tandis que là, la couche d'air va jouer un rôle de condensateur, va absorber cette surpression et va la restituer en souplesse dans le tuyau de refoulement.
Mmh, tout à fait.
Voilà.
C'est quand même un calcul très précis, du coup.
Évidemment,
il y a un système pareil.
Oui, et bon, il y a certaines contraintes à respecter au niveau des débits. Ce n'est pas quand même infaisable. Hein. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, mais après, bien sûr, autour de l'étude, le rendement sera plus ou moins élevé en fonction de la précision et des opportunités, des valeurs que l'on va attribuer aux composants actifs, essentiellement les soupapes.
D'accord.
Si c'est mal calculé, évidemment, bon, ça peut fonctionner, mais
du coup, on aura
un rendement bien inférieur.
Il n'y a pas de pente minimum, alors ?
Non, et à 50 cm, ça peut fonctionner déjà.
D'accord.
Après, au niveau de la puissance de refoulement, et c'est d'abord le volume d'eau que l'on peut capter qui va rentrer en ligne de compte, ainsi que sa hauteur de chute. Ces deux paramètres sont essentiels pour avoir de la puissance en sortie.
Mm-hmm. Il y a un rendement, est-ce que ça se calcule, enfin...
Oui, alors le rendement, effectivement, comme je disais, il est variable selon l'étude de la machine et selon les conditions dans lesquelles elle va fonctionner. Bon, je dirais qu'un rendement moyen est de l'ordre à peu près de 30%. Mm-hmm. Voilà. Mais sur des machines bien étudiées, on peut monter au-delà. Après, bon, si on rentre en ligne de compte les hauteurs de refoulement, eh bien, pour une configuration donnée de machine, la hauteur de refoulement va être inversement proportionnelle à la quantité d'eau qu'on va pouvoir remonter, de par le fait que bon, il y a une énergie à vaincre pour remonter la masse d'eau.
Tout à fait.
Voilà. Mais on peut, par exemple, récemment, on m'a cité le cas d'une personne qui a fait l'infrastructure pour installer une machine comme ça. Et c'était dans le Lauragais, je pense, d'ailleurs, il me semble qu'il m'avait dit. Il remontait l'eau à 80 mètres.
Wow.
80 mètres de faux niveau. Je peux dire que j'ai moi-même été visiter une installation dont le faux niveau doit être d'une quarantaine de mètres sur une distance d'un kilomètre.
Oula.
Donc, vous voyez la pente de données. Et en haut, il y a une cuve de 10 000 litres. Et bon, les gens exploitent le volume donc de ces volumes de cuves pour le sulfatage et pour les besoins de la maison. Et ce bélier date de 1850 à peu près. Il a quand même été rénové depuis. Hein, il est pas. Mais à l'époque, ils étaient équipés avec une soupape qui avait l'organe mobile en cuir. Et donc actuellement, bon, les machines actuelles, on ne met plus du cuir, mais c'est du caoutchouc.
Voilà. Okay. Très bien.
Mais la durée de vie et l'entretien est vraiment minime.
Et quelle différence il y a entre les pompes béliers et siphons élévateurs ? Parce que j'ai du mal à bien
retrouver. Avant de passer au siphon élévateur, je voulais vous faire écouter. Vous m'avez transmis un petit enregistrement de la pompe bélier. Alors je l'ai passé un petit peu pour ceux qui ont l'oreille tout à l'heure. Je vais vous en passer un petit extrait, c'est un bruit très, très caractéristique.
Alors,
voilà, c'est un enregistrement qui a été fait lors d'une précédente édition de Péguillon 1930.
Tout à fait, oui. Donc, cet enregistrement, c'est moi qui l'ai fait en 2010.
Alors, on avait également, je vous avais interviewé en 2012, on avait parlé de la pompe bélier de la pompe bélier lors d'un petit reportage qui avait été diffusé pendant l'émission. Et donc cette pompe, ce sera visible donc lors de ce rendez-vous là, Péguillon. Donc c'est le 6 septembre prochain. Donc
c'est ça,
prochain.
Le 6 septembre l'après-midi, oui, c'est ça. À partir de 14h donc. Et cette pompe bélier effectivement sera en fonction. Ce sera un modèle pas tout à fait le même que celui que vous aviez vu, qui était de couleur rouge. Mais ce sera le même principe, hein. C'est toujours une soupape de frappe.
Mais du coup, est-ce qu'au niveau acoustique, il y a possibilité de faire
changer les rythmes,
d'améliorer quelque chose? Parce que là, c'est un enregistrement, mais moi, ça me paraît assez bruyant quand
oui,
même.
Oui, mais vu que c'est loin, vu que tu es.
Ouais, mais ton bélier, si le voisin est à 50 mètres du bélier.
La remarque était bonne, et c'est vrai que c'est bruyant. Et d'ailleurs, en général, s'il est bruyant, ça veut dire qu'il est solidement arrimé, et plus il est bruyant, je vais dire, plus il est efficace. Parce
d'accord.
Que plus il est fixé solidement au sol, plus toutes les structures qui doivent supporter la suppression sont bien faites encore avec une masse, parce qu'il faut exploiter, il ne faut pas qu'il y ait le moins de vibrations possible pour capter un maximum de suppression. Si c'est un tuyau souple qui bouge trop, ce n'est pas bon non plus. Alors il est bruyant parce que ça se répercute bien sûr sur les structures sur lesquelles il est amarré.
Il n'y a pas possibilité d'avoir un espèce de coussinet qui absorbe la vibration, qui ne serait pas transmise au sol ou quelque chose comme ça?
Oui, ça peut s'imaginer, mais en fait, l'efficacité du système repose quand même sur un... Il faut que ça fasse bloc, hein. Le tuyau qui amène le tuyau là, d'eau essentielle qui vient de la fontaine jusqu'à la soupape de frappe, il faut que ça soit un monobloc. Et c'est ça qui est bruyant en fait, parce que ça se répercute, c'est du métal, donc ça répercute ensuite le long des canalisations, voilà.
Donc vous avez construit donc plusieurs pompes béliers, notamment pour ces manifestations de Péguillon, et cette année vous avez une thématique de nouveau sur l'eau.
Oui, on a repris ce thème-là parce que bon, il nous est tellement cher que bon, et puis ça, bon, parce que bien sûr, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, dans cette époque qui nous sert de support à notre fête, l'eau était un des éléments majeurs parmi tout ce qu'on va présenter comme activité.
Ça touche beaucoup de métiers au final.
Alors oui, nous avons en tout une quarantaine de métiers différents. D'époque, bien sûr. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du battage avec la machine à vapeur. Parce que bon, à l'époque, les tracteurs n'étaient pas légion. Les seuls tracteurs qu'il pouvait y avoir à l'époque, c'était les modèles Lance ou Société Française. Mais après ça, tout était basé sur la vapeur. Donc ensuite, nous aurons, il y a les scieurs de long, qui à l'époque étaient des charpentiers, bien sûr, et qui avaient une pratique de sillage qui en fait ressemble à une scie verticale, en fait. Et donc l'un des scieurs est monté sur la pièce de bois, ça l'appelle un chevalet, et le deuxième scieur est dessous et rappelle la scie lorsqu'elle est en position haute. Alors, il est évident que celui qui est dessous ramasse la sciure. Voilà. En général, c'était l'apprenti qui était dessous.
Pour voilà. Apprendre.
Forcément.
Donc, voilà, au niveau du bois, ensuite, nous aurons un poste d'écarissage de bois. Mm-hmm. L'écarissage du bois étant à l'époque, d'ailleurs, on en trouve encore des traces dans les anciennes maisons, on voit très bien que ça a été déligné... à la hache. Mm-hmm. Et donc cette pratique sera aussi donc montrée. Nous avons tant qu'on est dans le bois, nous avons aussi les scieurs de rondins, parce qu'à l'époque avec l'arpent, parce que l'arpent était la scie arpent, donc était essentiellement utilisée pour le bois quand on faisait le bois l'hiver, car les tronçonneuses n'existaient pas. Mm. Voilà. Ensuite, nous avons un atelier de mécanique avec du matériel d'époque. Mm-hmm. Voilà. Et donc, nous sommes toujours dans le thème de l'eau. Il y aura aussi une présentation faite par une personne de Peguillan qui connaît bien le sujet, vu qu'il a lui-même un moulin. Et donc, il va exposer, en fait, la vie du moulin avec ses origines, voilà. Et il est assez intarissable sur le sujet, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Ensuite, le moulin amène la farine, et nous en arrivons au stade de la farine, où, là aussi, nous aurons un poste dans lequel on pourra assister à la fabrication de la pâte, et ainsi qu'un boulanger qui fera cuire de la vraie pâte dans un vrai four. Mmh. Et qui cuira du vrai pain.
Voilà. Pour manger.
Voilà.
Robert est parti.
Voilà. Ce n'est pas du cinéma, c'est du vrai.
Et du coup, moi, je me demande, c'est juste une démonstration? Il y a aussi des ateliers auxquels les gens peuvent participer ou autre, enfin, il y a des structures aussi pour de formation, des choses comme ça, pour des gens puissent pratiquer.
Ou... Oui, pas vraiment. On peut le faire sur certains postes. On peut effectivement amener les gens à participer. Oui, d'ailleurs, ça plaît. Mmh. Alors, tout dépend des postes. C'est difficile, par exemple, d'amener, vous voyez, quelqu'un sur une machine, sur une batteuse, oui. Parce qu'il y a tout. Bon. Il y a toujours le problème de la sécurité qui rentre en ligne de compte, et après s'il y a des histoires, on ne sait jamais où ça peut arriver, mais évidemment il est certain qu'il doit y avoir des gens qui aimeraient bien, soit parce qu'ils ont connu ça déjà, y remonter, et puis bon, voilà. Après, il y a des postes où on peut, d'ailleurs on l'avait déjà fait, on avait déjà eu l'idée, d'ailleurs la question est bonne, au niveau du sillage des rondins. Mmh. Alors bon, là ça n'a pas de danger si on sait chacun d'un côté, ou bien un intervenant extérieur et puis un de chez nous, et donc qui guide un peu, voilà, et la personne repart avec son petit rondin de la fête, comme elle aime bien repartir avec un pain de la fête aussi. Ouais. Ou une corde de la fête aussi, parce que au niveau des cordiers aussi, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont revendues.
Ah bah oui,
voilà. Donc mais enfin, le but n'étant pas, alors notre but n'étant pas de faire du commerce, hein, je dis, d'ailleurs ça nous a, alors ça amène notre côté, un autre aspect de notre fête, c'est que elle se veut avant tout démonstrative, présentant un recueil de savoir-faire donc qui sont aujourd'hui disparus, mais ce n'est pas une fête, où la vente est l'élément majeur. Et ça nous a amené quelques soucis, parce que beaucoup de présentateurs, je dirais, dignes d'intérêt, hein, je dis, mais voulaient absolument vendre, et ça casse un peu l'esprit de la fête. Mmh. Et bon, mais je ne dis pas qu'un jour il faudra peut-être réviser notre façon de voir les choses, mais pour l'instant on s'en tient à ça. Et ce qui est, les quelques éléments qui peuvent être vendus, comme le pain, vont directement au comité des fêtes. Voilà, comme
moi j'imaginais plus une formule, on fait tous notre pain ou notre pizza tous ensemble et on la déguste ensemble tous le soir sans échange d'argent, quoi.
Je voulais
alors
là
c'est un peu plus coopératif.
Ça n'a pas été envisagé, mais bon, après
envisager un atelier participatif construire quelque chose, par exemple on coupe des rondins, mais c'est en vue de quelque chose ensemble pour la fête ou des choses comme ça, des choses qui restent.
Ça rappellerait l'ambiance du village d'autrefois, quoi, où on mettait tous la main à la pâte pour avoir justement la fête du village et après passer un bon moment autour de la pizza, du pain, de la bouteille de vin. Enfin,
évidemment, évidemment. Voilà. Benjamin, t'es de nouveau en train de manger. Tu fais que ça. Toute l'émission, il nous parle que de manger et de boire. Mais c'est incroyable, ça.
Ça fait partie des plaisirs de la vie. Hein,
Moi, j'ai une petite question donc pour votre thème qui est l'eau. Vous avez invité les Shadocks? Parce qu'ils pompent, hein. Les Shadocks, non? Ils pompent.
Oui. Alors, effectivement, l'utilisation du Shadock pourrait se révéler très utile. Seulement, voilà, c'est qu'il n'existait pas à l'époque.
Oui, mais maintenant, il pourrait venir donner un coup de main.
Oui, peut-être, oui. Ça aussi, c'est un village.
Ouais.
Je vais en parler à la prochaine réunion. Nous allons envisager la question. Donc, plonge pas de la discussion, jaillit la lumière.
Et peut-être la musique aussi. Un petit morceau.
On va faire une petite pause musicale avec le groupe Hero 4 qu'on a déjà écouté à une précédente émission, mais cette fois-ci c'est un autre morceau, donc c'est Krieg der Zwerge, La guerre des nains.
Voilà, donc c'était Eroc, un groupe des années 30.
Des années 80.
80. Donc nous sommes de retour en studio avec notre invité Jean Viviès autour de la manifestation des vieux métiers Péguillant 1930 qui aura lieu le dimanche 6 septembre 2015 à partir de 14h. Donc nous parlions de tous ces métiers anciens et toute cette chaîne en fait, tous ces métiers étaient liés quoi, qu'on parle de l'eau, du bois, du pain, du moulin, etc. On a parlé un petit peu aussi du bélier hydraulique, une pompe hydraulique sans énergie fossile ni électrique.
Moi j'imagine que c'est ça les énergies renouvelables en fait. Le bélier hydraulique c'est une bonne énergie renouvelable en fait.
Ça y est, on va sauver la planète.
Alors, voilà. Disons que oui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'utilise que la seule énergie qui ne nous coûte rien. En fait, c'est la gravité. En fait, c'est l'élément physique qui nous colle au sol. Hein. Voilà, donc cette gravité même qui est appliquée à une colonne d'eau va lui impliquer une certaine vitesse. Et cette vitesse, associé donc à la masse d'eau en mouvement va acquérir une énergie que l'on va essayer de capter par le biais sous forme mécanique par le biais d'une surpression. Cette surpression va nous comprimer une colonne d'air qui va servir à faire remonter l'eau au-dessus du niveau de la source. C'est l'intérêt essentiel.
Alors,
voilà, dans les grandes lignes.
Cette année, donc, vous avez une thématique sur l'eau et vous avez décidé d'innover. Tous les ans, vous rajoutez un peu des choses où vous avez une thématique différente. Et après, le bélier hydraulique, vous avez construit vous-même à Péguillan, enfin avec l'équipe de Péguillan.
Oui, alors...
un nouveau système.
Tout à fait, c'est l'équipe, oui. Et il y a, il y a un élément extérieur très, très actif et très intéressant qui a participé aussi, il faut le dire. Je n'y ai pas participé parce que les journées pendant lesquelles ils ont travaillé sur ce projet, moi j'étais au travail, donc je n'ai pas pu y participer à mon grand regret.
Alors, ce projet, c'est la construction d'une pompe à siphon élévateur.
Voilà, alors c'est le siphon élévateur, machine donc, qui a été présentée. Je vois que votre collègue a sur la table la photo que l'on trouve sur Internet. Et si je ne m'abuse, vous devez peut-être pouvoir voir au fond de la feuille que ça a été présenté dans le journal La Nature en 1892. Si vous pouvez me le confirmer.
Quelque part par là, c'est ce que j'avais vu, mais là, l'impression, elle a mangé un peu les bords, donc je ne peux pas tout avoir. Mais ouais, il me semblait que sur le site, c'était assez vieux. De toute façon, quand on voit l'iconographie, on voit que c'est pas d'aujourd'hui, quoi.
C'est ancien.
Il y a les calèches et tout, et les vieilles maisons, le paysan, la petite rivière, et même les matériaux ont l'air d'être
vieux.
Rustiques, ouais.
Les matériaux ont l'air de rustiques, tout à fait. Mm-hmm. Donc, ceux-ci font élévateur. En fait, est un combiné d'un siphon et d'un bélier hydraulique, en fait. Car une partie de cette machine va utiliser l'effet de surpression créé par l'arrêt brutal d'une colonne d'eau, comme dans le cas du bélier. À cette différence près, cette colonne d'eau est une colonne montante, alors que dans un bélier hydraulique, en général, c'est une colonne horizontale qui est soumise à la pression liée au fond niveau. Alors, pour essayer d'expliquer comment est constituée, déjà en apparence, c'est une machine qui est haute par rapport au bélier, parce que le bélier, lui, peut être au ras du sol, et c'est son tuyau d'évacuation qui remonte l'eau à une hauteur donnée. Dans le cas présent, l'élément actif, le moteur de la machine, doit se situer au maximum de hauteur, qui se situe à peu près dans les 9 mètres. Ce n'est pas un hasard, on parle de 9 mètres parce que c'est lié aux constantes physiques de l'attraction terrestre, n'est-ce pas? Donc pour monter une colonne d'eau dessus, ça devient difficile. On peut y arriver, mais il faut faire à ce moment-là des étages successifs qui se reprennent l'un l'autre. À ce moment-là, on peut faire des ajouts de systèmes qui permettraient de monter beaucoup plus haut. Alors, mécaniquement, c'est une infrastructure métallique qui demande quand même un arrimage solide. Et du point de vue de son fonctionnement, ça se présente sur une potence métallique, ça peut être un profilé carré de 20 sur 20, par exemple, qui va faire une hauteur de 6, 7 mètres. Le nôtre fait 6 mètres. Voilà. Au sommet de laquelle va être fixé les éléments actifs, vont être fixés les éléments actifs. En l'occurrence, il va y avoir le poumon dit hydraulique, qui représente la moitié du système, si on peut dire, et ensuite il va y avoir l'élément de frappe de type bélier qui représente aussi l'autre partie du système. Alors en gros, c'est un siphon, bien sûr, donc ça implique qu'il faut un niveau, deux niveaux, non, un supérieur et un inférieur, c'est toujours. Il faut donc qu'il y ait un faux niveau de façon à pouvoir exploiter l'effet siphon, en fait. Alors, pourquoi en fait faire monter l'eau
pour un faux niveau, pour bien qu'on comprenne, parce que c'est pas évident, c'est d'avoir une pente. On fait d'abord descendre l'eau pour pouvoir la remonter, c'est ça?
Oui, en fait, il faut exploiter deux différences de niveau.
Donc on l'a fait descendre.
Deux différences de niveau d'eau. Pour donner un exemple pratique, une cascade, une chute d'eau de moulin, par exemple, va très bien parce qu'elle est abrupte et ça va très bien parce que ça évite d'avoir un débattement de tuyaux important. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que, en fait, pour qu'un siphon puisse s'amorcer, il faut automatiquement un faux niveau. Une fois que le tuyau est rempli, pour que l'effet siphon fonctionne, il faut que la colonne descendante, en quelque sorte, de par la cohésion de l'eau, qui est quand même une certaine cohésion, aspire le côté montant. Voilà. Et d'une part, et ensuite, c'est la pression atmosphérique qui joue et qui force dans le tuyau, une fois qu'on a fait le vide, l'eau à monter. C'est le principe un peu du baromètre également que l'on retrouve. Donc,
Comme les vases communicants, en fait.
Oui, on peut. C'est un peu comme les vases communicants. C'est une différence presque que les vases communicants souvent il y a un niveau supérieur et inférieur, mais le niveau inférieur va se mettre au niveau supérieur. Il va s'équilibrer. Or là, si s'équilibre, c'est fini, la machine s'arrête. Il faut
d'accord.
surtout pas qu'elle soit équilibrée.
Faut pas qu'elle s'équilibre.
Voilà la différence essentielle.
Si j'avais un système semblable où, par des jeux de bouteilles, de petits tuyaux, ils arrivaient à faire remonter un escalier, et avec la pente que redescendait l'escalier, ça entraînait dans un circuit fermé, du coup, le déséquilibre permanent qui faisait que l'eau remontait à chaque fois.
Oui, alors je ne connais pas, c'est vraiment intéressant à voir, mais dans l'application qui nous intéresse, effectivement, il faut obligatoirement qu'il y ait un faux niveau permanent. Sinon, la machine s'arrête. L'effet siphon disparaît. Donc, en gros, ça se présente donc sur une potence de hauteur, avec deux tuyaux qui arrivent, un tuyau d'amener et un tuyau de retour. Et l'eau qui va être remontée va être captée au sommet de la tour.
Oui.
Voilà. Donc, c'est ce que l'on voit sur la petite image que vous avez sur la table.
Alors sur le site internet, on a mis une photo que vous m'avez envoyée hier de votre construction d'un siphon élévateur. Donc sur la page de l'émission et puis sur la page de l'événement de Péguillon 1930. Et pour compléter, l'article dans La Nature, ça date de 1892.
Ah, c'est bien ce qui me semblait, oui. Oui.
Donc vous pourrez retrouver l'image pour vous visualiser aussi un peu ce que c'est.
Et vous l'avez construit où dans le village
Il n'a pas été
construit. 6 mètres.
Alors là, c'est assez démodé. Oui, effectivement, je vois que vous envisagez, que vous voyez les difficultés que ça peut présenter au niveau manipulation et au niveau ensuite transport, déjà pour l'amener du lieu sur lequel il a été fabriqué et mis au point, et l'amener chez nous et ensuite l'installer. Eh bien, là, on a fait appel pour cette machine d'époque au matériel de la Cuma de Péguillon, qui a permis de monter à la hauteur voulue la machine pour l'installation. Ensuite, au niveau des essais, donc ça s'est fait, alors c'est la personne qui avait le matériel voulu pour faire tout ce qui est découpe dans le métal, soudure et autres. Ça s'est fait chez lui et les premiers essais ont été effectués sur la Louge, la rivière la Louge du côté des Fousserets. Voilà. D'accord. Donc là, je n'y étais pas, mais on m'a raconté que c'était assez épique, quoi. Les participants ont trempé dans l'eau pendant les essais, ils s'en foutaient. Il fallait que ça fonctionne, et avec un entêtement, pas possible, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait une super équipe. Et là, je regrette de ne pas y avoir participé, mais bon, les dates faisaient que. Hein.
Démonstration ce week-end.
Démonstration ce week-end. Et effectivement, comme nous disions tout à l'heure, une photo, donc, j'ai même, je pense avoir envoyé deux photos, du bélier qui a été fabriqué. Et quand on le voit comme ça, on voit quand même que c'est un ouvrage qui demande pas mal de travail. Et souvent le plus grand travail n'est pas toujours dans ce qui se voit, c'est au niveau de la mise au point, des réglages, voilà. Et là, c'est ça qui a été en fait le plus dur, parce que c'est une machine qui demande des conditions d'équilibre de fonctionnement. C'est quand même assez coquin à régler. C'est plus embêtant qu'un bélier hydraulique. Il faut que ça, parce qu'on a une partie siphon et une partie bélier là-dedans. Qui en fait s'auto-équilibre. Et si l'un des éléments vient à dériver d'une façon trop importante, ça met en défaut l'autre. Donc dans ce système-là, on va utiliser en combiné donc l'effet siphon du côté droit, comme vous voyez là sur cette photo, d'accord. Et l'effet bélier du côté gauche. Donc on va arrêter d'un violemment par le biais d'une soupape également la colonne montante. Et la suppression va s'échapper par le tuyau de refoulement, qui par gravité ensuite va réalimenter, on peut imaginer une cuve de récupération, ou bien un jardin, ou on peut imaginer différentes utilisations, ou un abreuvoir pour les vaches, etc. Donc le siphon hydraulique, effectivement, est beaucoup moins connu, et... Quand on cherche sur Internet, on se rend compte qu'il en existe très peu en fonctionnement, voire pas, et qu'il y a si je me souviens bien, il existe une ville dans le Var qui en aurait un et qui attend des sponsors pour en fait financer la remise en service.
La remise en état.
Voilà. Et alors ce siphon hydraulique est de marque Le Michel. C'est ce que l'on peut voir sur la photo qui a été faite. Mais il est essentiellement rouillé, donc tout à fait impossible d'en tirer quoi que ce soit sans y travailler dessus de façon sérieuse, quoi. Voilà.
Il en reste très peu au final en France.
Il se peut qu'il en reste, mais à ma connaissance, c'est pas très développé, en fait. Même à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était non plus très développé.
Ça devait être beaucoup moins compliqué, le bélier, que faire monter une colonne.
Tout à fait.
J'imagine que c'était assez...
C'était moins compliqué, et surtout aussi, sans doute, moins cher aussi à mettre en œuvre. Donc, voilà. Alors, ensuite, ce que l'on peut dire aussi, parce que, notre fête, on la veut aussi vivante que possible, et donc pour la rendre, je dirais, plus vivante en faisant tout à fait un rappel des conditions d'époque, nous avons depuis l'an dernier rajouté des scénettes en fait qui de théâtre, forme théâtrale on peut dire, ou de film, on pourrait le voir comme ça aussi, de vie de l'époque. Donc l'an dernier, nous avions le mariage à l'ancienne, qui était un des thèmes de notre fête. Et cette année, en fait, il y aura ce fameux sujet de l'eau dont on parlait au début de l'émission, qui était tellement important à l'époque pour faire boire les animaux, que on a imaginé une scène là-dessus, une discussion qui entre donc
entre deux éleveurs.
Qui va se dérouler sur une petite scène et qui va en fait essayer de refaire vivre une situation d'époque au travers de ce que l'on a pu nous raconter et ce que l'on a pu entendre de la part des gens qui l'ont vécu, parce qu'il y en a, on en a encore quelques-uns qui l'ont connu.
Étaient là-bas.
Voilà, alors de la discussion va jaillir une décision du maire d'acheter donc un ensemble de pompages. Eh bien, de là-dessus, on va saisir, entre guillemets, l'opportunité du fait que le ministre de l'Agriculture, qui est du pays et de passage, va venir inaugurer donc cette station de pompage, accompagné du député local. Alors, ça implique qu'il faut trouver, bien sûr, les costumes. Ça implique qu'il faut trouver aussi, autant que se peut, les véhicules d'époque. Voilà. Donc ça, c'est pour l'animation, je dirais...
Il faut avoir dans ses rangs quelques passionnés, quoi.
Oui, oui. Et il faut... Alors, juste pour ouvrir une parenthèse, une manifestation comme ça, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts et en 15 jours. C'est souvent le travail d'une année. On prend des contacts. Il y en a sur lesquels on peut compter. Et d'autres qui vous lâchent tomber au dernier moment.
Ça.
Alors l'élément noir de ce genre de manifestation, c'est la défectuosité du dernier moment.
Ouais.
Ça, c'est la... Et alors comme évidemment les gens viennent gratuitement, eh ben on peut pas non plus, on ne passe pas de contrat, donc on n'a aucun recours contre eux par la suite, si ce n'est la parole donnée.
C'est ça.
Voilà. La parole donnée, si elle a encore une valeur, ben c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut la justifier. Hein. Voilà. Donc... vu que l'on ne fait pas payer, toujours pareil, hein, j'en reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport les quelques éléments qui peuvent être vendus, donc vont au bénéfice donc, du comité des fêtes, qui, et ça sert à payer parce que bon, il y a quand même des fournitures, hein, une machine comme celle-là, je peux vous dire qu'il y a un paquet de prix de fer, de baguettes de soudure et autres. Et j'en passe. Bon, ça, et de la même façon, pour beaucoup de gens qui viennent, ils investissent de leur temps et de leur... ils le font. Voilà, c'est l'esprit. Alors, ce que nous craignons, en fait, c'est que si l'on dérive vers du commerce, eh bien, on va perdre l'esprit. Et là, c'est parce que bien souvent, plus ça devient, j'irais, à tendance commerciale, et moins l'intérêt des participants est important. On ne laisse en fait qu'en évidence l'intérêt de l'activité pour laquelle ils sont là.
Volontariat.
Actuellement, nous en sommes là. Et bon, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de coups de téléphone, ça demande des recherches, ça demande d'y penser, parce que bien sûr tout le monde a des tracasseries de la vie de tous les jours. Donc il faut malgré tout et au travers de ça et par-dessus tout essayer de penser à faire quelque chose qui tienne la route.
Oui, voilà, de coordonner. De...
Voilà, parce qu'il y a aussi cet effet de coordination. Il faut aussi, vu qu'il y a pas mal de postes, nous avons une quarantaine de postes, comme on disait tout à l'heure, qui vont cohabiter, il faut les placer dans un endroit où ça quand même, disons par affinité, on essaye de les placer par affinité pour que ça ait un sens plus, enfin, l'opportunité soit plus évidente. On ne peut pas mettre, mettons, je sais pas, le coiffeur juste à côté du boucher, et bon, on va mettre, mettons, la batteuse, le pain, pas très loin, de façon à ce qu'il y ait une suite.
Bien sûr.
Nous aurons aussi le coiffeur d'ailleurs qui coiffera,
le
qui
barbier.
Rasera avec les instruments d'époque et selon les pratiques de l'époque. Voilà. Sur les 40 postes, j'ai sûr que je ne les ai pas tous énumérés parce qu'il y aurait beaucoup à dire.
Il faut laisser de la surprise.
Voilà, on laisse
de
la surprise. Voilà, il faut venir à Péguilla le 6 septembre l'après-midi.
Il fera beau sûrement.
J'espère que oui. On va commencer. Oui. J'ai écouté jusqu'ici. C'est vrai qu'on a eu, allez, je dirais assez de chance, sauf en 2011 où l'après-midi a été assez mitigé, mais on avait un peu de soleil et la soirée a été arrosée. Et notre animateur d'apéritif concert, Monsieur Pacci, a été obligé d'évoluer sous une bâche pour en fait pouvoir continuer à jouer.
Marc, vous avez réussi la prouesse de faire venir l'eau.
On a fait venir l'eau.
C'est ça.
Voilà.
Bon, mais je vous propose une petite pause musicale et puis on conclut le sujet par la suite.
Ça va.
En même temps que la fin de l'émission d'ailleurs. Donc Norbert, qu'est-ce que tu nous as proposé encore
C'est encore moi qui propose. Donc un petit coup de Bernard Lavillier alors.
Eh bien c'est parti, Kingston.
Kingston.
Kingston. tropique, c'est vraiment tropical. Le reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à l'avion. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend. Chanson d'amour qui dit qu'il n'y a qu'un dieu, un pays, trois couleurs. 12 tribus dans la Bible, des coups de flingue dans la cible. Des blancs pour le gâteau, 500 000 au ghetto. 1 million dans la ville qui brûle en plein soleil. 2 millions dans une île juste en dessous du ciel. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Quand le soleil descend, si tu prends ma machette juste entre les oreilles, c'est fini pour la fête, fini pour le soleil. Plus j'ai faim, plus je fume, plus je fume, plus je crois. Mais de qui m'a bâti doit fumer comme moi. Comme lui, je danse comme un faux. Le lion des Rastas rôde dans les villas. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend. Sur les grilles des familles d'en haut, la brume qui scintille au-dessus du ghetto. À Trenchtown ça bouge, t'arrêtes pas au feu rouge. À Tivoli Garden, no good man. La lumière qui saute, Kingston est dans le noir. Les gunmen qui rôdent, transformés en passoires. Et l'amour qui s'en va, affamé comme moi. Affamé comme moi, hey. Affamé comme moi, hey, affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend.
Voilà, donc c'était Lavilliers et le morceau, Bernard Lavilliers et le morceau Kingston. Donc nous sommes de retour avec notre invité, toute l'équipe de Vivre en commun, avec Norbert, Noémie, Benjamin, Annie et puis moi-même Angelo et puis Christophe pour la première fois dans l'émission.
Mais moi aussi.
Oui, Noémie aussi, oui, c'est la première fois.
De nouveau dans l'émission, ça vous plaît?
Bah oui,
la
oui.
La radio?
Bah on attend le bizutage.
Non.
Et notre invité, donc Jean Viviès, qui nous parle donc de Péguillant 1930, cette manifestation qui a lieu dimanche 6 septembre à Péguillant. Donc ça se trouve sur le canton de, c'est Boulogne ou l'Île-en-Dedon?
Boulogne.
De Boulogne-sur-Gesse, entre oui. Boulogne et l'Île-en-Dedon. Et où sont reconstitués une quarantaine de métiers. D'anciens métiers comme ça se faisait dans les années 30
Et puis plusieurs installations, on en a parlé, comme les pompes à bélier et siphon élévateur, des systèmes de pompes hydrauliques sans carburant ni électricité, qui utilisent des différences de niveau pour créer un pompage. Alors cette année c'était sur l'eau, l'année dernière c'était une autre thématique qui était abordée, c'est quelque chose qu'on aurait pu aborder pendant l'émission. C'était autour de la radio diffusion.
C'était surtout non l'année dernière c'était surtout le mariage à l'ancienne, qui était donc l'élément clé, je dirais, de la fête. C'était aussi une scène en fait, hein, de la même façon, avec les gens habillés en costume d'époque. Et effectivement, il y a eu donc célébration de mariage avec quelques rappels des façons de faire de l'époque. Alors, on a parlé de la radio, effectivement. Et nous avons aussi un poste de présentation de radio électricité. Cette année, bon, il n'y sera pas parce qu'on a forcé sur le thème de l'eau et donc les ressources sont plutôt axées sur ce point-là. Mais la présentation de la radio, en fait, est un élément aussi important parce que dans les années 30, les seuls récepteurs qui étaient exploitables à l'époque étaient les postes dits à galène ou bien certains postes dits à lampe, mais qui étaient fonctionnés sur batterie. Et les batteries coûtaient très cher. Elles s'usaient, disons, relativement vite, ça coûtait très cher. Donc l'exploitation d'un récepteur de TSF de l'époque à tube était difficile à exploiter d'un point de vue économique tant que la distribution électrique n'a pas été amenée dans les campagnes, quoi. Voilà, donc le poste à galène était l'élément, et d'autant plus que lui ne nécessite aucune énergie extérieure. La seule énergie disponible que l'on récupère dans les écouteurs est celle que l'on capte par un circuit accordé et une antenne, donc qui arrive directement de l'antenne d'émission. Inutile de dire que les décibels ne sont pas d'un niveau très élevé et ça ne rendait pas sourd. Les cadrans n'étaient pas peuplés d'une multitude de récepteurs parce que on ne pouvait recevoir que des émetteurs très proches ou certains durant la nuit, parce que la propagation est bien meilleure pour les POGO pendant la nuit. Pendant la journée, donc la réception se limitait à une ou deux stations vraiment voisines. Voilà donc ce qu'on peut dire pour la radio. Après, l'année qui vient, je pense qu'on développera un peu plus le sujet. Il y a un sujet là qui est un peu dans les cartons, mais là c'est plus difficile, on ne va pas trop s'avancer, mais c'est le rappel de la télévision dans les années 30, parce que contrairement à ce que l'on peut croire, la télévision n'est pas arrivée dans les années 60. Déjà dans les années 30, il y avait des émissions de télévision à la Tour Eiffel, à Paris.
D'accord.
Voilà. Et donc, sans rentrer dans les détails, l'analyse de l'image se faisait par un disque mécanique, qui est une application du disque dit de Nipkow, qui en fait est assurée par une succession de trous percés selon des génératrices et décalés d'une certaine hauteur d'image au niveau des diamètres et ensuite dans l'espacement angulaire qui les sépare. Donc cette succession d'images, il fallait, alors évidemment ça laisse entrevoir la difficulté, il faut un synchronisme parfait dans la vitesse de rotation du disque. C'est la raison pour laquelle on installait des moteurs dits synchrones pour avoir une vitesse aussi stable que possible, sinon l'image devient inexploitable. D'accord. Et voilà.
Bon, mais c'est un sujet qu'on vous invitera peut-être à aborder lors d'une émission consacrée à ça, sur la radio. Moi, c'est une thématique qui m'intéresserait, de parler de radio à la radio, de comment ça fonctionne. Et un bon moyen, c'est d'expliquer l'origine, comment ça s'est construit petit à petit.
On peut, effectivement, il y a beaucoup à dire.
Surtout
sur ce
que vous
sujet.
Êtes un voisin de la radio.
Oui.
On peut le dire, vous êtes à quelques kilomètres.
Oui, tout à fait, précisément.
Alors, en face, quoi. On peut rappeler cette manifestation. Donc, je le rappelle, le dimanche 6 septembre. Alors, ça commence à 14h, mais ceux qui veulent, il y a un repas à midi sur réservation.
Exactement, oui. Alors, président, là, vous me prenez de court sur le numéro de téléphone, parce que je ne saurais pas vous le dire. Je pense qu'il est peut-être sur le tract que je vais joindre.
Oui, c'est le 05 61 88 13 19. Voilà, donc pour réserver pour le repas convivial qui a lieu au stade.
Voilà, donc, qui a lieu au stade, donc, c'est-à-dire à côté du terrain de tennis, pas très loin du terrain d'évolution où seront présentées les activités Peguilla 1930.
Voilà, et à 14h, donc ça commence, et à 18h, vous proposez un apéritif musical avec des grillades.
C'est ça.
Et petite question, donc tout ça c'est aussi gratuit? Ah bah, sauf les repas, quoi, j'imagine.
Ah, oui, alors
mais
oui.
La manifestation est gratuite, donc vous êtes tous bénévoles aussi, j'imagine.
Oui, ces, alors.
Ça représente un certain nombre de bénévoles.
Tout ça. Vous avez raison de souligner cette façon. Bon, donc, ce sujet, parce que c'est en fait, très important. Et ça rejoint l'esprit donc dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui est surtout avant tout une présentation des pratiques donc de cette époque-là. Effectivement, il y a énormément de bénévolat. Et bon, alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les quelques sous qui peuvent être récupérés par le comité des fêtes au travers de quelques objets vendus servent en partie à payer en fait les fournitures très nombreuses. Et en fait, cette manifestation ne rapporte rien du tout. Nous sommes contents dans la mesure où on arrive à équilibrer. On ne parlera pas de gain. On va juste parler d'équilibre. Et quelquefois, c'est même difficile. Donc, ça laisse en fait entrevoir que l'esprit donc passe avant tout pour l'instant. Et ça étonne beaucoup de gens parce que bien des personnes nous ont fait la remarque comme quoi on aurait dû au moins demander un minimum. Et donc pour l'instant, on va en rester donc à la configuration que nous avons, c'est-à-dire que le spectacle est gratuit. Par contre, après, oui, les grillades et les apéritifs, non, parce qu'en fait, c'est aussi un des éléments qui nous servent à faire rentrer un peu de monnaie.
Comme quoi, il est possible aussi d'organiser des événements comme ça avec un autofinancement, quoi.
Oui. Mais attention, comme on disait, il faut faire rentrer une grande part de bénévolat. Mmh. Oh, c'est de l'ordre de 95%, on peut dire, parce qu'il y a quand même des choses que l'on est obligé de louer, que nous n'avons pas, hélas. Nous sommes obligés de louer la machine à vapeur.
D'accord.
Voilà, essentiellement. Et puis, il y a peut-être certaines choses aussi, dans certains costumes aussi, que l'on est obligé de louer. Voilà. Alors, la commune nous aide donc par une subvention qui nous aide beaucoup. Ensuite, nous obtenons des subventions jusqu'à maintenant du conseil régional et du conseil général. Voilà. Est-ce que cela va durer vu les conditions de restriction qui s'appliquent actuellement à tous les ministères? Bon, on se pose la question. Alors, si un jour ces subventions venaient à être réduites au minimum, voire disparues, à ce moment-là, peut-être qu'on sera obligé pour subsister de faire payer les entrées, donc, quitte à demander une somme tout à fait modique, mais qui pourrait remplacer donc, ces suppléments extérieurs.
Oui, ce qui marche assez bien, c'est en participation libre. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Et des fois, on a des surprises. Enfin,
bien souvent, on a des surprises.
Ouais. Des bonnes?
Bah oui, des bonnes surprises. Enfin, je sais que mon une amie qui avait monté un festival en milieu rural, et la troisième année, pareil, au niveau des subventions, ça commençait à être dur. Et voilà, elles ont juste mis en participation libre et elles ne s'attendaient pas à recevoir. Alors maintenant, voilà, c'est compliqué pour gérer toutes ces... Les dons qui ont été faits,
oui.
Et savoir comment les réinvestir, c'est pas...
Mais localement, il y a l'association Remue-Ménage et le festival à Aner et toute l'association qui fonctionne à prix libre, autant pour les boissons que les repas, que les manifestations. Mmh.
Alors c'est bien d'avoir soulevé ce problème-là, parce que en fait nous l'avons évoqué effectivement, la possibilité de mettre un tronc, je dirais,
un rondin,
donc dans lequel les gens pourraient mettre quelque chose éventuellement pour encourager le. On l'avait fait pour la boîte cochon. À idées, c'était intéressant aussi, ça nous permettait de voir d'où venaient les gens un peu, et voilà. Pour ce qui est en fait du nombre de personnes qui viennent nous visiter, c'est une clientèle qui est assez stable et le nombre aussi autour des 2500 personnes. Alors, on l'a su parce que, sans que nous ne fassions payer, nous avons eu l'idée de distribuer des tickets à l'entrée, des tickets gratuits, mais qui nous permettaient de faire du comptage. En fait, parce que le comptage, on a essayé avec des systèmes mobiles, je dirais. Alors, s'il y a beaucoup de monde, on clique plusieurs fois ou pas assez, en fait, le résultat n'est pas toujours très plus heureux. Donc, le système des billets, en fait, semble être, jusqu'à maintenant, le meilleur qui nous permet d'avoir une approche aussi ciblée que possible.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup Jean Viviès d'être venu. Je vous remercie. Donc on se retrouvera le dimanche 6 septembre à partir de 14h à Péguillan.
Mais volontiers et sous le soleil.
Oui.
Oui.
C'est ce qu'on souhaite tous.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.